Appel d'air, Céline, sur Radio Grand Ciel. Bienvenue pour cette nouvelle émission d'Appel d'air. Nous allons partir pour le nord de l'Europe, dans un pays tout en longueur et qui compte plusieurs dizaines de milliers d'îles. Il s'agit de la Norvège. En France, on ne connaît pas forcément beaucoup de musiciens ou de chanteurs norvégiens, si ce n'est le compositeur du 19e siècle Edvard Grieg ou, à l'opposé total en point de vue musical, le groupe des années 80 AA. En 2005, il y a quand même un chanteur qui a connu son petit succès avec son titre « Got Known ». Il s'agit de Robert Post. When I was a little boy, I used to wonder just how old you'd have to be to feel good. I've seen a thousand girls, but I still wonder, 'cause they just don't make sense to me. God knows I've tried. I tried to be the unpredictable one. I've tried to be the friend that they could rely on. I still got none. I got nothing at all. To me, I'll still be holding my own hand the day I die. So please release me now. I've tried to be the mean, mysterious one. I've tried to be the sweetest candy you've sucked on. Le livre de Dina est un roman de Herbjørg Wassmo publié aux éditions Gaïa. Dina, l'héroïne de ce roman, vit au nord de la Norvège. L'action se situe dans la première moitié du 19e siècle. C'est une petite fille qui grandit ignorée, rejetée par son père depuis l'âge de 5 ans, car elle est responsable de la mort accidentelle de sa mère, Gertrude. Dina grandit comme une enfant sauvage, elle ne parle plus depuis le drame, et c'est l'arrivée quelques années plus tard de son précepteur Lork, un musicien qui va la pousser à parler à nouveau. Lork va en quelque sorte la sauver, en plus de ses cours de lecture et d'écriture, il lui apprend à jouer du violoncelle. Dina grandit, devient une jeune femme indépendante, libre, qui n'a que faire des convenances. Elle grimpe aux arbres, elle passe une grande partie de sa journée à cheval, elle porte des pantalons de cuir, elle laisse ses cheveux détachés alors que la coiffure convenable à adopter serait le chignon. Elle parle un peu comme un paysan aussi, Dina. La seule activité pour laquelle on est fier de la présenter en société, c'est lorsqu'elle joue de son violoncelle. Comme il est écrit dans le roman, elle ne craignait le jugement de personne. Ce qu'elle voulait, c'était posséder les autres sans être elle-même possédée. La vie de Dina est marquée par les hommes. En plus de son père, le commissaire, et donc de son précepteur, Lork, il y a Thomas, un garçon de ferme de son âge, toujours à ses côtés et prêt à la suivre aveuglément. Il y a aussi Jacob, un ami de son père, qui veut l'épouser, même si lui a 48 ans et elle seulement 15. Pour lui, c'est le coup de foudre. Dina, qui est loin d'être la gentille demoiselle qui se soumet aux décisions de son père, refuse d'abord l'idée du mariage. Jacob devra l'apprivoiser. Avec ce mariage, c'est une nouvelle vie qui commence pour elle, au domaine de Reinsnes, là où, je cite, « le ciel et la mer ne font qu'un ». Reinsnes, c'est un comptoir commercial que Jacob a hérité de sa défunte épouse. En plus des maisons, de la ferme, des entrepôts, il y a aussi une boutique, et le bateau à vapeur s'y arrête au moins une fois par mois. On a l'habitude de recevoir des visiteurs à Reinsnes. Là-bas, il y a aussi les fils de Jacob, Johan, futur pasteur, et puis aussi Nils et Anders. De nombreux autres hommes marqueront la vie de Dina. Mais il y a une femme qui est essentielle dans sa vie, toujours à ses côtés, malgré la mort, c'est sa mère, Gertrude. Dina aime lire et relire le livre noir de Gertrude, c'est en fait sa Bible. Les histoires que ce livre contient la fascinent. On ne pouvait pas en deviner la fin comme on pouvait toujours le faire dans les contes, écrit l'auteur. Et surtout, Dina peut voir sa mère. Gertrude existe, comme le dit Dina. Elle a la capacité de voir les revenants. Dina, c'est une héroïne sauvage, passionnée, dont on entend la voix au fil du récit par moments dans de courts monologues qui commencent à chaque fois par ces mots « Je suis Dina ». Le livre du Dina, c'est une trilogie, trois volumes assez brefs mais marquants. Une saga que l'auteur a débutée en 1989, poursuivie ensuite avec deux volumes Fils de la Providence et une autre trilogie, L'Héritage de Karna, des romans dans lesquels on suit le fils de Dina, Benjamin. Récemment, la romancière norvégienne a publié Le Testament de Dina, a donné à nouveau la voix à son héroïne. Le livre de Dina a été aussi adapté au cinéma en 2002 par le réalisateur danois Ole Borndal, je ne sais pas si je prononce comme il faut, avec dans le rôle de Dina Maria Bonnevie. C'était une coproduction européenne puisqu'on y retrouvait dans le casting Gérard Depardieu dans le rôle de Jacob. On y retrouve également l'acteur danois Mads Mikkelsen et l'anglais Christopher Eccleston. Le livre de Dina est publié aux éditions Gaïa.
Chest, shut down for far too long. Finally getting hurt. Multicolored hummingbird. Oh, I take me alone. Oh, I let me be that song. Oh, I take me alone. Oh, I let me be that song. Fight inside our hands, I'm frozen in our feet.
trying to fetch the mystery between you and me. Finally getting her multicolored hummingbird. What's dead and breathe life in and move like knives through scars on land, still untouched. No stain of hands, caramelized in a tilted light. No chain stays unbroken. Idea reduced again to outcome. No change stays unbroken. All pain
c'était la chanteuse Rebecca Carriord, une chanteuse originaire des îles Lofoten, des îles qui sont évoquées dans le livre de Dina, mais également dans le roman de Roy Jacobsen intitulé Les Invisibles. Les Invisibles, c'est un roman qui se passe au début du XXe siècle, on ne sait pas exactement quand. Barøy, c'est une petite île au nord de la Norvège. C'est aussi le nom de la famille qui y vit. Hans et Maria vivent à Barøy avec leur fille âgée de 3 ans au début du roman, Ingrid. Il y a aussi Barbro, la sœur un peu simplette de Hans, âgée d'une 20aine d'années, et leur père à tous les deux, le vieux Martin. L'île est décrite comme une pierre noire posée sur l'horizon, mais le plus vert des jardins. Avec ses prés entourés de murs de pierre, ses maisons, son débarcadère, Barøy est une île parmi d'autres qui forme, comme le dit le pasteur, non pas une côte stérile et aride, mais un collier de perles et une chaîne en or. Sur chacune de ces îles vit une ou deux familles. À Barøy, on vit de la pêche et du travail de la terre, il y a peu d'arbres et peu d'animaux. On découvre dans le roman la vie des Iliens au rythme des marées et des saisons. Les hivers sont parfois rudes, une couche de glace recouvre alors les rivages. Lors des tempêtes, on reste calfeutré dans la maison. La sécheresse peut frapper l'été, le printemps être trop pluvieux. Mais il y a aussi de magnifiques journées, des moments de bonheur où l'île fait figure de paradis. On reçoit rarement des visiteurs, ça devient tout de suite un événement, et quand la famille quitte l'île, c'est pour se rendre sur l'île la plus grande où se trouvent l'usine, les commerces et l'église. Ingrid grandit peu à peu. À l'âge de 7 ans, elle doit partir à l'école tous les 15 jours. Elle doit quitter Barøy pendant 2 semaines. C'est son premier vrai départ de l'île, son premier contact avec un autre mode de vie. Elle comprend, en grandissant, que l'île est, je cite, « quelque chose que l'on peut quitter ». Et pourtant, quitter l'île, c'est, comme l'écrit Roy Jacobsen, une idée impossible, surtout au moment où la première tempête de l'hiver pousse ses râles de mort à l'extérieur des murs qui craquent. À ce moment-là, on est déstabilisé. On ne sait pas que, lorsque l'on vit sur une île, on n'en part jamais. On ne sait pas qu'une île s'accroche à tout ce qu'elle a, de toutes ses forces. Le père d'Ingrid, Hans, éprouve aussi cette envie de partir découvrir autre chose, mais aussi toujours ce besoin de revenir. Tous les hivers, il part en campagne de pêche aux îles Lofoten, et pendant plusieurs mois. À son retour, il tâche d'améliorer leur quotidien, il entreprend la construction d'un quai, l'installation de nouvelles fenêtres. Il y a des décisions pas toujours faciles à prendre, garder ou non le cheval pour le labour, accepter qu'une balise soit installée sur l'île. Hans lutte pour faire vivre sa famille. C'est un père aimant, Hans, qui apprend très tôt à Ingrid à regarder la mer pendant la tempête pour ne pas avoir peur. Elle devient, je cite, « une fille de la mer qui ne voit pas les vagues creuses comme un danger ou une menace, mais presque toujours comme un chemin et une solution ». Si Ingrid a 3 ans au début du roman, on la découvre adolescente à la fin. On la voit grandir rapidement, parfois d'un chapitre à l'autre, l'auteur fait des sauts dans le temps de quelques années, mais le tout s'enchaîne de façon très fluide. C'est un roman qui n'a pas a priori une intrigue palpitante, mais ça n'est pas pour autant un récit tranquille. Des incidents et des rebondissements rythment la vie de Barøy. Le style sobre de Roy Jacobsen nous fait partager la vie d'Ingrid et de sa famille. Il nous transporte sur une petite île norvégienne en seulement moins de 300 pages. 2 ans plus tard, l'auteur a publié le livre « Mer Blanche ». Dans ce roman, on retrouve Ingrid, jeune femme, et son île en pleine Seconde Guerre mondiale. C'est un roman qu'on peut lire indépendamment des Invisibles. On peut tout à fait aussi commencer par Mer Blanche, lire Les Invisibles après. Dans tous les cas, on retrouve avec un grand plaisir le style de Roy Jacobsen. Ask me anything you like, I'll reveal everything. I will treasure the truth, you could know anything. I am but a fool to play, unaware of things. If I treasure the truth, I would tell it to you. I'm coming down to tell you what I know. Sleep.
things you used to hold back. I come around each time your notes are high to tear you down and drag you up to let you know what.
Nous avons écouté tout d'abord le chanteur Sondre Lerche, et à l'instant c'était Blum, c'est un petit groupe groupe qui, comme vous l'aurez remarqué, chante en norvégien, un groupe originaire d'Oslo. Justement, nous partons pour Oslo avec le roman Doppler de Erlend Loe. Doppler, c'est le héros de ce roman, Andreas Doppler, de son nom complet, un homme d'une quarantaine d'années, qui vit donc à Oslo, marié, père de deux enfants. Il quitte tout du jour au lendemain pour aller vivre dans la forêt. Après une chute de vélo, Doppler est sonné, déboussolé. Il se retrouve allongé dans la bruyère au milieu de la forêt et réalise que d'un coup, tous ses petits soucis ont disparu. Quel carrelage ou robinet choisir pour la nouvelle salle de bain? Comment convaincre son fils de 4 ans d'arrêter de regarder en boucle Bob le bricoleur? Tout ça s'éclipse. Doppler a surtout une révélation. La vie ne tient qu'à un fil. Son père est mort récemment et il réalise qu'il était finalement un inconnu pour lui. Doppler remet en question sa vie et il reconnaît aussi qu'au fond, il n'aime pas les gens. Quelques jours plus tard, remis de ses émotions, il part pour une balade dans la forêt, mais ne revient pas chez lui. Il plante sa tente, il emménage dans la forêt, comme il le dit, car, je cite, « la forêt écoute et comprend, elle ne démolit pas, mais restaure et laisse les choses pousser ». 6 mois plus tard, notre héros est toujours dans la forêt, il se trouve à court de nourriture. Il va tuer un élan pour avoir de la viande, mais en fait cet élan était une femelle qui avait un petit. Le jeune élan ne lâche plus Doppler d'une semelle, il devient son compagnon, il l'appelle Bongo et lui parle. Combien de temps va-t-il pouvoir continuer comme ça? Il a 2 enfants, Gregus 4 ans et Nora 16 ans. Sa femme est plutôt patiente, elle vient le voir de temps en temps, mais lui apprend un jour qu'elle est enceinte. Doppler n'est pas prêt pour autant à rentrer, son ancienne vie ne lui manque pas. Il réalise qu'il a passé sa vie à s'appliquer à l'école, au travail, dans ses amitiés, dans sa vie de famille. Il déclare « Je me suis marié d'une manière appliquée, nous avons eu des enfants que nous avons élevés de façon appliquée et une maison que nous avons rénovée de façon tout aussi appliquée. Pendant des décennies, j'ai pataugé dans cette mare d'application. » Il énumère ainsi pendant 2 pages tous les domaines pour lesquels on peut s'appliquer. On devient même, je cite, applicationno-dépendant. On peut même mourir en s'appliquant, dit-il, et il en arrive à cette conclusion, l'application, pour lui, c'est fini. Doppler est déterminé à s'éloigner de la civilisation. Une seule chose lui manque, le lait demi-écrémé, qu'il considère comme le nec plus ultra de ce que l'humanité a réussi à accomplir. Et oui, n'importe quel imbécile peut se procurer un vulgaire lait de vache. Vous l'aurez compris, Doppler, c'est un personnage complètement décalé, qui va se retrouver dans des situations complètement improbables, loufoques. Lui qui voulait être seul et déclare détester les gens, va faire malgré tout de nombreuses rencontres. Si l'auteur profite de ce personnage pour pointer du doigt les excès de notre société moderne, c'est surtout l'humour qui règne dans ce roman, un roman publié aux éditions Gaïa. Cette émission norvégienne se termine. Merci d'avoir écouté Appel d'air. À bientôt. Farvel, farvel, jeg eder byder. Farvel med hjerte, hånd og munn. Det ord har meget at betyde. For kristne i skilsmissens stund.